Nous commençons aujourd'hui quelque chose qui n'est pas simple. C'est pour ça que ce n'est pas un cours d'histoire que je vais vous faire, mais je vais parler de mathématiques parce qu'on va tomber dans quelque chose de très précis puisque nous commençons l'étude des épîtres de Pierre. Et la semaine dernière, Daniel avait fait l'introduction. Et donc, c'est à moi que revient la lourde charge de commencer à étudier cette épître. Donc là, nous ne sommes pas du tout dans l'évangile de Jean, Daniel l'avait dit, où nous avions une histoire, un suivi, ça racontait quelque chose, ça, c'était en même temps évidemment absolument théologique, mais c'était aussi la vie de quelqu'un que nous avons suivi pendant les années de sa présence sur Terre, et cela permettait d'inclure dans ses prédications quelque chose de l'ordre du vivant, au sens premier du terme, puisque c'était quelqu'un qui vivait et qui, à travers sa vie, transmettait évidemment son message nécessaire et impérieux. Là, c'est la vie de Jésus est terminée sur terre, et là nous passons à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait de cette vie-là ? À quoi cela a servi que Jésus ait vécu tout ceci, comme tu nous l'as rappelé dans plusieurs des passages que tu as lus, comme Yann nous l'a rappelé aussi à cette mort sur la croix, qu'est-ce que nous en faisons ? Et c'est, en effet, tous les textes qui suivent les évangiles, les différentes épîtres, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'en fait être un chrétien ? À quoi, si Jésus a fait ça, nous, qu'est-ce que ça nous donne comme obligation ? Et les trois principaux qui le disent, c'est Paul, Pierre, Jean, il y a aussi... Enfin, a priori, ce sont eux qui sont notés comme les trois écrivains post-évangéliques et qui vont donner les modes d'emploi du christianisme en quelque sorte. Et comme Daniel l'avait très bien noté la semaine dernière, Pierre était sans doute le moins apte à le faire vu son comportement plus que chaotique avec Jésus, surtout vers la fin. Et pourtant, c'est lui qui va nous donner ce que j'appellerais notre profession de foi. Non, tu as beaucoup parlé de l'apôtre Paul avant. Là, on va revenir sur ce que nous dit Pierre. Et pourquoi Pierre se donne le droit de prendre cette parole-là, alors qu'a priori, il n'était pas très à la hauteur du vivant de Jésus. Donc Daniel l'avait dit, mais je veux juste le relire très très rapidement pour se remettre bien en tête, que ce qu'il va nous dire là, c'est... Jésus qui l'autorise à le faire, donc dans Luc 22, 32. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Et dans Jean 21, 15, 17, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci ? » Il répondit « Oui. » « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux. » Et vous savez qu'il le répète trois fois. Donc, cette épître de Pierre, c'est simplement l'obéissance aux ordres donnés à Jésus de son vivant sur terre. Alors, c'est un texte que je vais lire que l'aide de José, parce que vous allez voir qu'il est extrêmement ardu. C'est, voilà, on est en équation du deuxième degré à deux inconnus. Et quand on se plonge là-dedans, évidemment, c'est beaucoup moins évocateur que les noces de Cana ou que d'autres épisodes de la vie de Jésus au premier abord. Donc on va le lire et mon travail ensuite d'instituteur sera d'essayer de le décrypter de façon le plus simple possible afin que on puisse en tirer la substantifique moelle et être affermi comme Jésus avait demandé à Pierre de le faire pour nous. Donc il y a 12 versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, par l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable cependant éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé au ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Alors c'est d'une écriture en plus un peu, alors je parle pas le grec, mais c'est un peu ronflant, c'est des grandes phrases, des belles phrases, et c'est vrai qu'on y ressent consciemment plein de vérités que l'on comprend, mais qui sont mises dans un ordre un peu, non pas chaotique, mais que notre esprit a peut-être du mal à synthétiser, à mettre en place pour comprendre vraiment le message qui est dit là. Donc mon seul objet ce matin, et rapidement, ça va être de remettre de l'ordre dans ce qui est dit pour qu'on le comprenne encore mieux et que ce message de Pierre nous concerne vraiment aujourd'hui. Parce que dès le début, nous en sommes là, c'est adressé à nous. Pierre, aux apôtres de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au pont, etc. Ça s'adresse aux nouveaux chrétiens, qu'ils soient d'origine grecque, païenne, il y avait sans doute aussi des juifs dedans, qui, eux, n'ont pas vu Jésus-Christ. Donc, c'est exactement notre cas, nous sommes dispersés. Tu disais qu'on était 300 parmi 60 000. Voilà, nous sommes dans cette dispersion-là, nous sommes dans le monde entier, nous n'avons pas vu Jésus, et cette épître s'adresse vraiment à nous. Donc là, autant dans les évangiles, on était encore dans la projection de et dans la vie de gens qui avaient vécu ça, autant là, avec Pierre, dès le début, nous sommes mis devant notre responsabilité. Je m'adresse à vous, qui êtes partout, qui ne l'avez pas vu et qui êtes de toute origine. Et c'est pour ça que on ne peut pas faire d'évangélisation avec ce genre d'épître-là, parce que ça s'adresse vraiment explicitement à des gens qui sont déjà chrétiens et qui sont concernés par cette histoire de Jésus au plus profond de leur cœur. Et dès le début, au verset 2, le fait que cette parole nous soit donnée à nous, les chrétiens, se fait tout de suite sous le patronage, si je puis dire, de la Trinité. Élu selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc les choses sont bien claires, on sait de quoi on parle. La préscience de Dieu, alors ça c'est aussi il y a beaucoup de versets dont j'aurais pu parler, mais je ne vais pas en parler puisque le temps m'est un peu compté. Dieu connaît par avance tous ceux qui vont venir à lui, non pas qu'il enlève la liberté de chacun, mais il sait, puisqu'il est de toute éternité, ceux qui vont venir vers lui, ceux qui ne vont pas venir vers lui. Donc, il fait appel à cette préscience de Dieu, la sanctification de l'Esprit, donc qui est déjà arrivée, puisque nous parlons après la descente de l'Esprit sur les apôtres. Et enfin, tout ça est possible parce qu'il y a eu l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur nous tous. Et il termine par « que la grâce et la paix vous soient multipliées ». Alors, c'est intéressant parce que là, il fait vraiment le pont entre les deux alliances, l'ancienne alliance et la paix. C'était toujours toutes les paroles des prophètes, c'était toujours pour aller vers la paix dans Dieu, en essayant par la loi de respecter le plus possible pour obtenir une paix intérieure qui soit la plus significative possible. Et la grâce, c'est évidemment la grâce de la nouvelle alliance qui nous est donnée puisque Jésus est mort et ressuscité. Donc, d'entrée, les choses sont bien claires, cela nous concerne, cela me concerne. Cette épître de Pierre a été écrite pour nous ce matin. Alors, pour continuer, on va commencer par la fin, pour dire d'où nous vient cette certitude que ce qui est dit est bien la vérité. On va, disons que c'est au verset 10, c'est Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Parce que vous avez entendu, quand on a lu au début, ça parle du salut. Mais tout ce que Pierre peut dire, en fait, a été annoncé par les prophètes, prévu par les prophètes, qui étaient dans l'attente de la venue de ce Messie, qui lui seul pouvait accomplir tout ce qui était attendu par les croyants. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Là encore, j'aurais pu, je ne le ferai pas, revenir en arrière sur plusieurs passages qui, en effet, étaient une annonce de ce qui allait arriver et que ne pouvaient comprendre que les gens qui le vivraient avec la puissance de l'Esprit, c'est-à-dire nous. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses, donc pour nous. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Cette dernière phrase est intéressante, et les anges désirent y plonger leur regard, puisque, juste, je me permets de vous lire, dans Romains 8, 19, le fait que ce plan de Dieu, tel qu'il est arrivé avec la venue de Jésus sur terre, la mort sur sa croix et sa résurrection, c'était quelque chose que même les anges ne savaient pas, que la création ne connaissait pas, quelle était la puissance de ce plan-là, parce que dans Romains 8, 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation, c'est nous qui l'avons reçue, et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous permettre d'en faire n'importe quoi. Donc, je passe puisque nous sommes en dernière heure, les quelques endroits donc où on indique que les prophètes étaient vraiment là pour annoncer, pour préparer et mettre le peuple dans l'attente de cette révélation. Cette révélation du salut, nous l'avons, la voici, et c'est Pierre qui l'a décrit donc dans les versets 3 à 9, et c'est ce que je vais essayer rapidement de, non pas de répéter, simplement de vous remettre dans un certain ordre pour que dans votre esprit cela soit plus clair, et que nous partions avec, non pas les certitudes intérieures que nous avons, mais peut-être avec des certitudes intellectuelles pour mieux l'expliquer, puisque ces textes-là servent à ça. Alors, il y a, dans le verset 3 à 9, deux parties. On parle d'abord de la nature du salut, et ensuite, on parle des conséquences de ce salut. Je dirais, la première partie, c'est la nature intrinsèque, qu'est-ce que le salut ? Et la deuxième partie, c'est la nature conséquence, c'est-à-dire les causes que cela induit dans notre existence. Alors, dans cette première partie, qui va jusqu'au verset 6, en gros, c'est cette richesse du salut-là. C'est-à-dire que Dieu, là, enfin, par Pierre, nous met sous les yeux, voilà ce que vous avez gagné. Vous avez tiré le gros lot, vous avez cru en moi, et par la grâce de ce Jésus qui est venu, mon fils, qui est mort pour vous, et qui a été ressuscité, voilà à quoi vous avez droit. Cette fameuse grâce, c'est ça. Et donc, ça peut se diviser en sept petits chapitres. La source de ce salut, c'est d'abord sa grande miséricorde. Verset 3. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde. Donc c'est d'abord un don de Dieu, l'amour de Dieu, qui nous permet de rentrer dans ce salut. Ensuite, le deuxième petit chapitre, c'est l'étendue de ce salut. C'est qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. C'est-à-dire que ce salut n'est pas simplement un acte qui nous est donné et qui nous sauve. En plus, il nous régénère totalement. Il fait de nous une nouvelle créature. Les choses ne sont pas faites à moitié. Ensuite, par quel moyen cela est fait ? Là, c'est marqué par la résurrection. La résurrection. Et quel est l'agent qui a permis que cette résurrection ait du sens ? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et dans quel but ? Verset 4, pour un héritage. qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Et quelles conséquences cela inclut ? Nous avons une espérance vivante, verset 3, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, et cette espérance vivante, nous avons la capacité de la garder, et c'est dit au verset « Gardez en la puissance de Dieu », je vous le retrouve, excusez-moi. Voilà, merci, verset 5. « À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi. » Donc, si on essaie de résumer ça très rapidement, cette richesse du salut qui nous est donnée, qui nous est offerte, il a une source, la miséricorde de Dieu qui nous l'offre. Il a un espace qui est étendu à l'éternité, où nous sommes totalement régénérés. Il est fait par le moyen d'une résurrection, comme on a vu pour quand on a pris la Sainte Cène. Mais pas la résurrection de n'importe qui, c'est pas la résurrection du frère, de Marie, etc. C'est la résurrection de Jésus-Christ parce qu'il est le Fils de Dieu. Tout ça nous donne un héritage, et cet héritage-là, il est non polluable, il est donné, il est comme ça, il va combattre même toutes nos propres erreurs, il est donné, et toutes les fautes qu'on va rajouter dessus dans notre vie, elles vont se heurter à ce bloc de l'héritage qui, lui, est impénétrable, est sûr. Et tout ça, nous avons l'assurance que cela va fonctionner pour nous, parce que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Donc, là, c'est la richesse du salut, telle qu'on a à la recevoir, à dire merci, se mettre à genoux et à dire « c'est trop beau, merci de nous donner ça, selon cet ordre précis, clair et net ». Et la deuxième partie, c'est ce que j'appelle la nature conséquente, c'est-à-dire qu'est-ce que cela induit pour nous, quel quotidien pour nous. Et ça, c'est dans les versets 8 et 9 qui vont suivre, et qui vont être intéressants parce que ils vont nous permettre de nous poser la question, en fait, quelque sorte, de la poule et de l'œuf. Parce que les conséquences intérieures de ce salut, tel qu'il nous est offert, c'est la foi. Cette foi, c'est un cadeau. Mais dans quel sens cela se fait, on peut en discuter. Le verset 8, qui me paraît, moi, le plus fort pour expliquer tout le reste, c'est « vous l'aimez sans l'avoir vu ». C'est-à-dire que l'amour total qui est d'aimer quelqu'un alors qu'on ne l'a même pas vu, va donner cette foi-là. À moins que ce ne soit la foi qui nous donne cet amour-là. Et dans notre vie, ça va être ça tout le temps. Est-ce que c'est parce qu'on croit qu'on fait ceci, ou c'est parce qu'on fait ceci que l'on croit ? Et je pense que la réponse, elle est dans cette relation, en fait, c'est toujours un balancement entre les deux, qui est, un, de la responsabilité de Dieu, on a vu tout à l'heure, cette richesse du salut qui nous est donnée, mais d'un autre côté, nous, qu'est-ce que l'on en fait ? Et c'est la balance des deux, c'est Dieu qui descend vers nous, certes, mais c'est nous aussi qui devons aller vers lui pour qu'il y ait cette interrelation entre lui et nous. Et ça va continuer, au verset 6, il dit « Vous en tressaillez d'allégresse ». Oui, la joie, la foi nous donne la joie, mais est-ce que ce n'est pas aussi la joie qui nous donne la foi ? Au verset 7, « Que votre foi se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur ». C'est-à-dire que nous avons notre louange, la façon de dire notre bonheur d'être à Dieu. Est-ce que c'est ça qui va être aussi le ciment de notre foi ? Mais c'est aussi parce que nous avons la foi que nous pouvons avoir cette louange-là. Mais peut-être que aussi, plus nous exprimons cette louange et ces remerciements, que la foi va grandir. Et inversement, je trouve ça extrêmement riche dans ce début d'épître, ce perpétuel jeu de rapport entre Dieu et nous. On dit toujours que être chrétien, et tu parlais au début que les religions, pour les gens, ça ne veut plus rien dire, parce qu'on a perdu l'idée de la relation. C'est ça, être chrétien. C'est avoir une relation avec Dieu. Mais cette relation, elle est dans les deux sens. Et ça continue aussi pour au verset 6, il dit « Vous êtes éprouvés par les souffrances, etc. » Et forcément, cette souffrance, il est dit que dans cette souffrance, votre foi va s'affermir. Il est même dit « Puisqu'il le faut ». C'est marqué au verset 6, « Vous entrassez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves. » C'est pas parce que Dieu donne des épreuves, la question n'est pas là, c'est parce que ces épreuves sont aussi la manière de savoir à quel niveau monte notre foi. Mais est-ce que c'est parce que nous avons la foi que les épreuves nous arrivent et que nous les supportons bien, ou c'est parce que nous supportons d'autant bien les épreuves, que nous les acceptons, que nous les comprenons, que la foi progresse? Et enfin, au verset 8, vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. Là, c'est l'histoire de l'espérance, puisque nous ne le voyons pas. Et pourtant, nous sommes pleins de cette joie-là, et que sans le voir encore, encore, ça veut dire qu'un jour, on va le voir. Nous espérons le voir. Donc cette espérance fait grandir notre foi. Mais c'est parce que aussi nous avons cette foi-là que nous avons cette espérance. Et la conclusion de finalement cette présentation, d'abord, quelle est la nature du salut que l'on reçoit, et ensuite, quelles sont les conséquences pour nous de ce salut que l'on reçoit, qu'est-ce que l'on en fait et comment on fait grandir cette foi, certes, par le don de Dieu, mais par notre don aussi à nous, et la relation que l'on met dans cette histoire personnelle que nous avons chacun avec notre Créateur, qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est marqué au verset 9, « En remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. » Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est-à-dire que le salut de nos âmes, il est le résultat de cette grâce du salut qui nous est donné entièrement, avec sa source, son étendue, son moyen, son agent, son but, son assurance, ses conséquences, et aussi le fait que nous, de nous-mêmes, nous y mettons l'amour, la joie, la souffrance, la joie, la louange et l'espérance. Et c'est ce mélange de ces deux volontés, en quelque sorte, la volonté divine et la volonté humaine, qui donne ce résultat, qui est extraordinaire, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Et là, dans ces 12 premiers versets, on pourrait même dire que Pierre pourrait s'arrêter là, parce qu'il a tout dit. C'est-à-dire, être chrétien, tu disais ça au début, c'est ça. C'est complètement comprendre cette relation qu'il y a entre Dieu et nous, et que Pierre décrit de façon absolument claire, maintenant pour moi très claire. Alors que, à la première lecture, comme tout est un peu mélangé, mais notre poète grec nous expliquerait peut-être qu'il y a des raisons. Il y en a sûrement. J'essaie de vous le remettre en tant qu'instituteur de base dans quelque chose de plus compréhensible à notre type de raisonnement occidental. Donc ce que je vous propose maintenant pour conclure, et j'aurais tenu ma promesse que le dernier cours ne soit pas trop long et qu'on puisse finir à l'heure, on va relire ce texte. D'accord ? Mais maintenant, je vous demande de le relire à l'aune de tout ce que je vous ai dit, en espérant que cette fois-ci, vous le comprendrez. Bravo pour ceux qui l'ont compris du premier coup, c'était pas mon cas, donc pour cela, je m'excuse, mais c'est ceux qui méritent de passer à la classe supérieure tout de suite. Mais pour tous les cancres du fond, qui sont près du radiateur comme moi, je le relis, et j'aimerais qu'ensuite, parce que toute la suite des épîtres de Pierre, ça va être ça. Ça va être nous mettre dans la relation de Dieu personnelle, qu'est-ce que je fais moi par rapport à ce qu'il a fait lui et réciproquement. Donc si on a bien compris ces 12 premiers versets, toute la suite, à mon avis, va en découler d'une manière plus simple. J'espère avoir fait ce travail de défrichage pour les prédicateurs qui prendront ma suite. On le relit et on s'arrêtera là. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élu selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui, d'avance, attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard.